Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. On se réveille ensemble et on écoute le monde changer avec Sophie Echen pour un nouveau journal. Bonjour Sophie.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 6h.
Je prenais un repas et je le vomissais dans l'heure qui suivait environ. Je suis descendue en dessous de 45 kilos. J'avais pris des photos de moi quand je les regarde, mais je ne me reconnais pas.
Mais c'est l'une des conséquences inquiétantes de la crise du Covid, la hausse des troubles alimentaires. Les jeunes adultes sont les plus touchés, 30% de consultations en plus depuis un an. Dans ce journal, les détails du plan de relance économique de la France présenté aujourd'hui à l'Union européenne. Le duel au régional en PACA, le républicain Renaud Muselier contre Thierry Mariani du Rassemblement National. Et puis le best-seller American Psycho à 30 ans, adapté en film en 2000. C'est actuellement une série qui est en préparation.
Et mon invité inattendu en est fan. C'est un peu un bref Stonelis des temps modernes. Vous le verrez, il sera avec nous à 6h20.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Anorexie, boulimie, les troubles alimentaires ont nettement augmenté depuis le début de la crise sanitaire. En un an, les services spécialisés ont vu leur activité augmenter d'un tiers. On va s'intéresser à ce phénomène avec vous, Johanna Chabas. Vous nous dites que les jeunes femmes de moins de 30 ans sont les plus touchées.
Oui, c'est le cas de Marie, 19 ans, étudiante en première année de géographie. L'an dernier, lors du premier confinement, elle a perdu tous ses repères et ça a déclenché une boulimie.
Avant le confinement, j'avais en fait une routine, un emploi du temps. Je me levais le matin, j'allais au lycée, je mangeais à midi en ville avec des amis. Et donc le confinement, ça m'a empêché tout ça. Ça a laissé place à tout ce stress et cette anxiété qui m'atteignent parfois. Donc il y a une période pendant le confinement où je prenais un repas et je le vomissais dans l'heure qui suivait environ. Je suis descendue en dessous de 45 kilos. J'avais pris des photos de moi quand je les regarde, mais je ne me reconnais pas. Le fait de vomir me soulageait.
Alors Marie est loin d'être un cas isolé. Hein, Johanna, en réalité, les professionnels de santé font face à un véritable afflux de patients.
Oui, notamment à l'Institut Montsouris à Paris. Là-bas, les 30 lits sont occupés, une vingtaine de personnes sont en liste d'attente. Maurice Corcos, qui dirige le service, est obligé d'adapter la prise en charge des patients.
Nous assistons à des demandes de plus en plus nombreuses de patients qui sont beaucoup plus maigres, qui nécessiteraient des hospitalisations. Or, comme nous n'avons pas de place, nous les gérons en consultation avec nos collègues omnipraticiens, médecins généralistes. Ça tient, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps.
Alors, cette augmentation des troubles alimentaires, elle s'explique, on l'a entendu, par un manque de repères, de relations sociales, mais aussi, selon le psychologue Valentin Flodias, par un sentiment d'impuissance face à la crise sanitaire.
Dans une période où on a peu de contrôle, l'alimentation, ça reste quelque chose qu'on peut contrôler, qui est rassurant. Et chez certaines personnes, l'alimentation permet de gérer le stress. Et donc, du coup, on peut potentiellement déclencher un trouble des conduites alimentaires.
Et selon lui, la fin de la crise n'apportera pas forcément un répit. Un déconfinement, c'est la reprise d'une vie sociale. Et donc, pour certains, le retour du regard des autres, source de peur et de stress.
Un dossier signé Johanna Chabas.
Et comment aider ces jeunes, leurs familles? Je vous invite à retrouver sur europe1.fr les conseils de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, qui était mon invitée tout à l'heure à 5h40. Pendant ce temps, la campagne de vaccination avance. Sophie Echen, plus de 14 millions de Français ont reçu au moins une dose. C'est plus d'un adulte sur 5.
Et à partir du 15 mai, la vaccination sera ouverte à tous les plus de 50 ans. Sauf que d'ici là, il reste encore pas mal de créneaux à pourvoir dans les centres de vaccination. Plus de 220 000 créneaux disponibles en ce moment. C'est ce que nous verrons dans le journal de 7h, reportage dans un vaccinodrome de région parisienne. Écoutez le ministre de la Santé, Olivier Véran, il était en déplacement à l'ARS d'Île-de-France hier.
La règle, c'est qu'on ne jette aucune dose de vaccin. Et donc, les centres disposent de fichiers de rappel des personnes qui ont pris des rendez-vous qui peuvent être lointains ou des personnes qui sont dites en liste d'attente, et notamment les personnes les plus fragiles. Donc, j'invite les directeurs de centres à contacter ces fichiers de personnes pour leur proposer, pour leur les inviter à venir se faire vacciner sur chaque créneau de vaccination disponible dans chaque centre du territoire national. Enfin, toujours dans la logique de ne pas perdre de doses, si jamais il n'y avait pas de public prioritaire qui devait être vaccinable, et comme je ne veux pas qu'on jette de doses, les centres savent ce qu'ils ont à faire, les médecins savent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent contacter, et en priorité d'ailleurs, des personnes qui, bien qu'étant peut-être un peu plus jeunes, présentent ce qu'on appelle des comorbidités, des risques qui les exposent à des formes graves.
Pas question en revanche d'élargir les cibles de vaccination dans les prochains jours, a rappelé le ministre de la Santé. santé. 3 mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende pour les deux frères à l'origine d'une fête qui avait rassemblé près de 300 personnes sur les quais de Saône à Lyon. C'était le 30 mars. En parallèle, le parquet de Paris ouvre une enquête après le rassemblement improvisé au but de Chaumont dimanche pour mise en danger de la vie d'autrui et participation à un rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique.
6h05 sur Europe 1. C'est aujourd'hui que la France remet sa copie à Bruxelles pour obtenir les 40 milliards de subventions qui lui reviennent sur le plan de relance européen.
Un plan global de 750 milliards d'euros. Il s'agit d'expliquer où ira l'argent et comment il devra redresser les finances publiques. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a demandé hier à la Commission européenne d'étudier les dossiers le plus vite possible. Carole Ferry.
Bruxelles prévoit les premiers versements au mois de septembre. Bruno Le Maire veut qu'ils arrivent dès le mois de juillet. Pourra-t-il expliquer que ce plan de relance devienne une réalité concrète pour les citoyens européens? Mais ce que craint surtout le ministre de l'économie, c'est que les lenteurs technocratiques de l'Europe ne freinent la relance européenne, alors que la croissance chinoise est repartie et que les États-Unis sont en plein essor. Sauf que pour Bruxelles, il n'est pas question de signer un chèque en blanc. C'est tout l'objet du dossier qui est remis aujourd'hui à la Commission européenne. La France doit prouver 2 choses. 1, qu'elle utilisera bien les subventions européennes pour relancer l'économie avec des mesures vertes. 2, qu'elle a prévu les mesures qui permettront, une fois la crise passée, d'assainir ses finances publiques. Tout est détaillé sur 100 pages, déterminantes pour obtenir le feu vert de Bruxelles.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
On en vient à présent aux élections régionales et départementales qui approchent, c'est dans 2 mois, et ce duel acharné qui s'annonce pour la région sud.
Depuis hier, Renaud Muselier est officiellement candidat à sa succession. Il affrontera l'ex-ministre UMP Thierry Mariani, passé sous les couleurs du Rassemblement national. Du côté de La République En Marche, c'est la ministre Sophie Cluzel qui est chef de file. Et l'hypothèse d'une alliance de premier tour entre la marcheuse et le président sortant fait trembler les Républicains. Aurélie Herbemont.
Faire alliance avec En Marche pour arriver en tête ou risquer d'être deuxième derrière le désormais RN Thierry Mariani, c'est le choix que doit faire Renaud Muselier. Avec les injonctions contradictoires de son parti, d'un côté Christian Estrosi tenant du rapprochement avec les macronistes, de l'autre nombre d'élus ulcérés par ses tractations au point de menacer de ne pas soutenir la liste LR. Éric Ciotti hier au comité stratégique n'a pas mâché ses mots. Si Muselier fait alliance, il aura la défaite et le déshonneur. Pire, le député Julien Aubert, chef de file dans le Vaucluse, renoncera s'il y a des ministres sur la liste. Bref, psychodrame en vue à droite. Thierry Mariani, lui, a déjà annoncé la couleur à un de ses anciens amis. Il fera campagne sur le thème « Voter Muselier, c'est voter Macron », un argument qui peut porter en PACA pour le RN et qui inquiète cette dirigeante à l'approche de la présidentielle. Comment on explique qu'on est avec Macron et qu'on est contre Macron?
Direction Saint-Omer, à présent dans le Nord. Pardonnez-moi Sophie Echanou, le maire pourrait décrocher le titre de meilleur maire du monde.
3 Français sont en lice sur les 32 élus sélectionnés dans le monde entier. Celui de Grigny dans l'Essonne, celui de Grenoble et François de Coster, donc à Saint-Omer, plutôt populaire auprès de ses administrés, comme l'a constaté Maximilien Carlier.
15 000 habitants dans cette ville de l'Audomarois. Ses 3 places, le Marais, le théâtre à l'italienne rénové. Pour cette raison d'ailleurs, Daniel, un riverain, admire son maire.
Heureusement qu'il est arrivé pour embellir Saint-Omer. Il est très bien, il surveille les personnes âgées telles que moi, puisque je suis âgé aussi. Il vient nous voir et il nous entretient.
Du contact, de la proximité et des initiatives comme au tout début de la crise sanitaire. Initiative saluée par Ludivine, responsable d'un salon de coiffure.
Il a mis en place pas mal de masques qui ont été distribués dans le centre-ville pour nous les commerçants. Il a aussi donné des aides pour les loyers.
Afin d'accompagner les plus isolés, coups de téléphone, portage de courses par des bénévoles, live Facebook même. Hors contexte Covid, il organise aussi des balades urbaines. Stéphie Decoq, adjointe en charge du service public municipal.
On se balade avec monsieur le maire dans la ville et où on peut lui poser des questions sans avoir à passer par le canal de la mairie. Il a toujours à cœur de faire le bien pour ses habitants.
C'est un bon, voire un très bon communicant, selon une élue de l'opposition qui estime toutefois que cette possible étiquette de meilleur maire du monde serait un peu exagérée. Saint-Omer, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et le maire de Saint-Omer, François de Coster, sera tout à l'heure l'invité du tête-à-tête de Mathieu Béliard à 7h40 sur Europe 1. Et puis il y a 30 ans, Sophie Echen sortait American Psycho, le roman best-seller de Bret Easton Ellis.
Un roman adapté en film avec Christian Bale, sorti en 2000. Une série est actuellement en préparation. Il faut dire que l'œuvre est devenue culte pour toute une génération. Nicolas Caro.
Je m'appelle Patrick Bateman et j'ai 27 ans. Je prends grand soin de moi. En mangeant léger
et en faisant de l'exercice chaque jour.
Patrick Bateman n'aime rien ni personne à part lui-même, les costumes de marque, les cosmétiques rajeunissantes et l'argent, bien sûr. Le jour, il est un golden boy successful et méprisant de Wall Street, tiré à quatre épingles. La nuit, il enfile un tablier en plastique et devient un psychopathe sadique qui assassine à coups de hache.
Je risque d'avoir du mal à me contrôler si vous restez. Un grand malheur pourrait arriver.
Portrait d'une époque, description de la folie, de la vanité, dénonciation de la violence des comportements en milieu privilégié, le roman et le film ont échappé de peu à la censure à l'époque. Ils bousculent et dérangent toujours autant aujourd'hui. C'est la marque des chefs-d'œuvre.
Je me sens au bord de la folie meurtrière. J'ai l'impression que ma santé mentale est sur le point de basculer.
Voilà, l'adaptation à venir en série d'American Psycho. On va y revenir avec l'invité inattendu, ne le manquez pas, c'est dans 10 minutes. Merci Sophie Eschen, c'était le journal de 6h, il est précisément 6h11.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Axel May est de retour. Après avoir éliminé le Barça puis le Bayern, Axel, le PSG s'attaque donc ce soir à Manchester City.
Ouais, demi-finale allée de la Ligue des champions de football au Parc des Princes. Le PSG qui pourra compter sur tous ses joueurs majeurs. Pas de blessés, notamment le Brésilien Neymar qui sera sur la pelouse.
Quand j'ai signé au Paris Saint-Germain, la priorité était claire, remporter la Ligue des Champions. L'an passé, on en a eu l'opportunité en atteignant la finale. C'était d'ailleurs la première fois dans l'histoire du club. On fait partie maintenant des 4 meilleures équipes d'Europe et cela signifie que le travail paye de plus en plus.
Neymar, traduit par Julien Froment, qui vous fera vivre en intégralité la rencontre aux côtés de Cyril de la Morinerie.
Coup d'envoi 21h, dès 20h, émission spéciale Europe 1 Sport.
En face, Manchester City se souvient d'avoir été battu en quart de finale de la compétition lors de l'édition 2016. Aujourd'hui, le contexte a changé, estime l'international algérien de City, Riyad Mahrez.
On est beaucoup mieux, oui, c'est sûr, parce qu'on arrive en bonne forme dans les moments importants, dans la dernière partie de saison. Et oui, nous, on va toujours jouer notre jeu avec beaucoup de personnalité. On n'est pas là pour jouer une demi-finale de Ligue des Champions. On est là pour montrer qu'on doit jouer pour gagner.
Riyad Mahrez de Manchester City. Hier soir, je rappelle que le Real Madrid a sauvé le match nul sur sa pelouse face à Chelsea. Un partout, but madrilène signé Karim Benzema. Son 71e but en Ligue des Champions. Comme l'autre star du Real, Raoul, il n'est plus qu'à 2 unités du podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1.
Un changement d'entraîneur, Axel May, à l'Olympique Lyonnais. On parle là de l'OL version féminine.
Oui, après élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, battue par le PSG, Jean-Luc Vasseur est remplacé avec effet immédiat à la tête de l'OL par l'ancienne capitaine du club, Sonia Bonpastor, désormais donc entraîneur de l'OL. C'est la première fois que le club féminin de Jean-Michel Aulas a une entraîneur fille.
Quand le Covid, Axel, met fin au rêve d'une sportive.
La martiniquaise Anne-Laure Florentin met fin à sa carrière de karatéka et n'ira pas aux Jeux Olympiques où la discipline faisait pourtant son apparition. Âgée de 29 ans, hein, seulement la triple championne d'Europe de karaté a eu une complication cardiaque, témoignage recueilli par Corinne Boulou.
Dès les premiers entraînements, le soir, je commençais à ressentir des palpitations au niveau du cœur. Les jours passant, ça s'est intensifié. Ils en ont conclu que c'était donc une myocardite. J'avais des lésions au niveau du cœur. Du coup, voyant que les échéances arrivaient, donc les championnats d'Europe qui vont avoir lieu dans pas longtemps, les Jeux qui se rapprochaient aussi, et les championnats du monde. Donc, il a fallu à ce moment-là que je prenne une décision entre ma santé et l'incertitude cardiaque pour des événements comme ça.
Anne-Laure Florentin, karatéka, qui met donc un terme à sa carrière. Et puis l'appel au secours de la Ligue nationale de cyclisme qui rend publique une lettre adressée au président de la République. Lettre dans laquelle elle lui fait part des inquiétudes les plus vives face à la situation difficile, parfois désespérée, subie par le cyclisme français face à la crise sanitaire avec des annulations en cascade de courses comme les 4 jours de Dunkerque qui viennent de sauter du calendrier. Je parle là des courses de seconde catégorie, bien entendu.
Merci beaucoup, Axel May.
Europe 1.
À 6h14 sur Europe 1, c'est un livre devenu culte qui a marqué toute une génération, American Psycho de Bret Easton Ellis, à 30 ans. Sorti au printemps 91, il a été adapté en film avec Christian Bale, souvenez-vous.
Je me sens au bord de la folie meurtrière. J'ai l'impression que ma santé mentale est sur le point de basculer.
Eh bien, il va bientôt l'être en série, l'occasion de s'y replonger avec mon invité inattendu ce matin. Bonjour.
Bonjour, c'est Frédéric Becbédé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, Frédéric Becbédé. C'est l'un de vos livres préférés, American Psycho. Vous l'avez même classé numéro 1 de votre hit parade il y a quelques années. Et vous nous racontez pourquoi dans une minute. A tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Mon invité inattendu ce matin a donc de quoi se réjouir. Son roman préféré, American Psycho, va être adapté en série 30 ans après sa sortie. Vous adorez ce livre de Bret Easton Ellis, Frédéric Becbédé. Pourquoi ? Pour son personnage complètement psychopathe ou pour le style d'écriture ?
Les deux, bien sûr. J'aime les anti-héros, j'aime les personnages, j'aime les livres qui choquent, en fait. Kafka dit qu'un roman doit être une hache qui brise la mer gelée en nous. Et American Psycho, c'est exactement ça. C'est une lecture dont on ne sort pas indemne. C'est une réflexion sur le capitalisme, sur la société des apparences, sur nos désirs artificiels et sur la folie de ce monde. Et voilà, c'est un livre très, très, très provocateur et très choquant. Mais vous avez raison de dire que c'est aussi une écriture, une forme nouvelle. À l'époque, il y a 30 ans, quand Bret Easton Ellis publie ce livre, il invente un style qui a énormément influencé les décennies qui ont suivi.
Ouais. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas lu effectivement ce livre choc, ni vu le film sorti en 2000, je redonne un petit peu l'intrigue. On suit donc Patrick Bateman, qui est un jeune golden boy de Wall Street, complètement auto-centré, narcissique, obsédé par son corps, ses costumes, son statut social, et qui la nuit se transforme en tueur psychopathe complètement sadique.
Oui, et c'est vrai que c'est un peu outrancier et extrême comme livre, puisque il prend le symbole de la richesse, de la notoriété, de l'aisance financière, et il en fait un malade mental, serial killer, ultra violent. Et en même temps, la métaphore est comment dire, tellement caricaturale que c'est un livre assez comique, je dois dire. Quand on le lit, c'est tellement n'importe quoi. Il n'arrête pas de commettre des meurtres la nuit dans des restaurants à la mode. Il se fait jamais prendre.
Sans qu'on sache vraiment, en fait, s'il les commet vraiment, ces crimes sordides, ou si tout se passe dans sa tête. Il y a aussi beaucoup d'ambiguïté.
Oui, bien sûr, et c'est comme ça qu'il s'en sort, parce que évidemment, à la fin, on pense que c'est un pur délire de toxicomane. Il n'arrête pas de se droguer, et donc on imagine que peut-être tout ça n'a lieu que dans sa tête de dingo. C'est un obsessionnel troublé, et je pense que c'est un personnage qui est resté et dont le cynisme et le nihilisme ont influencé vraiment beaucoup de séries, de films et de romans. Et moi-même, comme d'autres, j'ai évidemment été très très traumatisé stylistiquement par la froideur de Bret Easton Ellis.
On dit qu'il a échappé de peu à la censure à l'époque en 91, c'est vrai ?
Ah mais alors ça c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une période de moralisation de l'art et de la littérature, et Bret Easton Ellis est une des premières victimes de la cancel culture. Quand il sort... D'abord, ce livre a été refusé par son éditeur. Simon & Schuster a refusé le livre alors qu'il avait touché un gros avaloir. Donc déjà, début de scandale parce qu'il est obligé de changer de maison d'édition. En France également, il devait être publié chez Christian Bourgois qui a refusé le livre. Et il est sorti chez un petit éditeur qui s'appelle Salvi. C'est un livre qui a eu beaucoup de problèmes. Il a été
parce qu'on est effectivement sur un anti-héros raciste qui voue une haine meurtrière aux animaux, aux homosexuels, aux femmes, qu'il mutile d'ailleurs de manière complètement atroce. Je vais vous poser une question volontairement provocatrice, Frédéric Becbédé, mais est-ce que le sortir en série télé aujourd'hui, c'est pas non plus tout à fait dans l'air du temps, c'est ce que vous disiez?
C'est-à-dire que ça nous pose une question, c'est à quoi sert le roman? Si le roman, c'est comme un antidépresseur qui nous fait du bien, qui est là pour nous réchauffer, nous rassurer et dire le bien et combattre le mal, à ce moment-là, effectivement, il ne faut plus lire des livres ni regarder des séries de ce genre. Si au contraire, on pense que l'art est là pour nous alerter, nous réveiller, nous choquer, nous montrer le mal et l'horreur du monde, alors Bret Easton Ellis est toujours un grand écrivain.
Un génie. Vous aviez aimé le film et l'interprétation assez timbrée de Christian Bale ?
Ah oui, beaucoup. Je dois dire, c'est pas mon film préféré tiré de Ellis, parce que j'aime beaucoup Les Lois de l'Attraction de Roger Avary, qui est à mon avis nettement supérieur. Mais enfin, American Psycho quand même est un film qui se voit avec avec délectation, à condition de bien savoir que c'est une caricature, c'est une satire. Et le but, c'est de secouer le spectateur.
À votre avis, ça a du potentiel, du coup, pour une série télé? On connaît un petit peu l'histoire maintenant, mais...
Je ne sais pas si Ellis est impliqué dans l'écriture du scénario de la série, mais en tout cas, le personnage de Patrick Bateman est très fascinant. Il est puissant, il est en même temps complètement perdu. Le personnage peut être décliné dans des scènes différentes. Je suppose que ça aura lieu dans les années 80 pour être tranquille, pour s'imaginer qu'aujourd'hui le monde n'est plus comme ça.
Pour coller à l'époque. On n'a pas encore toutes les précisions, on n'a pas le casting notamment. Qui est-ce que vous verriez bien, vous, en Patrick Bateman parmi les acteurs d'aujourd'hui?
Vous savez, beaucoup de cinéastes ont plagié Patrick Bateman. C'est-à-dire que, par exemple, ouais.
Le
Loup de Wall Street de Scorsese, c'est clairement, pas un plagiat, mais disons une interprétation de ce personnage. Donc, pourquoi pas un DiCaprio? Pourquoi pas un Bradley Cooper? Pourquoi pas tous ces mecs très beaux et en même temps capables d'ironie, d'auto-dérision.
On pense à Ryan Gosling aussi, je trouve qu'il y a un petit côté Christian Bale dans Ryan Gosling.
Oui, il pourrait très bien faire cette espèce de froideur et de sourire glacé de quelqu'un qui est archi snob et complètement, en même temps complètement paumé, quoi.
Allez, on lance les pronostics. Merci beaucoup, Frédéric Becbédé, d'être venu nous parler de votre lien si fort avec ce roman American Psycho, qui fête donc ses 30 ans et qui sera adapté prochainement en série. Merci d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Et il est l'heure d'ouvrir à présent la partition d'Omblin Roche, l'histoire cachée derrière une chanson, un concert, un artiste et ce matin figure mythique des années 70 et 80, égérie absolue de la mode et de la publicité. J'ai nommé Grace Jones.
Oui, une beauté singulière, des pommettes saillantes, des sourcils affûtés, un large sourire rouge, un regard qui nous transperce et des jambes interminables. Grace Jones, avec son allure androgyne, a inspiré les plus grands photographes.
Grace Jones, née Beverly Jones en Jamaïque.
La fille d'un prédicateur qui enseigne la foi et la Bible avec son ceinturon à portée de main. Mm-hmm. L'épaisseur de la ceinture dépend de l'ampleur de la punition.
Elle n'a pas encore 18 ans lorsqu'elle s'installe aux États-Unis.
Elle s'échappe de cette première partie d'existence misérable en rejoignant le monde impitoyable de la mode et met le cap sur Paris en 1970. Never stop me.
Et en France, devant sa caméra, Jean-Paul Goude va sculpter sa créature.
Il la réinvente, joue avec la géométrie de ses traits, la noirceur de sa peau. Grace Jones raconte que quand elle était enfant, dans la campagne jamaïcaine, elle était une luciole dont on ne voyait que les dents et les yeux à la tombée de la nuit. Elle devient une icône, symbolise l'autorité féminine. Grace Jones déniche des contrats en or et devient une figure centrale de la mode parisienne et du disco.
Et à partir de là, elle va partager sa vie entre la capitale française et New York.
Déesse de la nuit, les soirées sont extravagantes et sans fin au célèbre studio 54 à Broadway. Le repère des jet-setters new-yorkais, inspiré par ce temple du disco. À Paris, le théâtre du Palace s'est transformé en boîte de nuit très sélective.
Le 1er mars 1978, Grace Jones est l'invitée à la soirée d'ouverture.
Oui, une sacrée fête, dit-elle. L'endroit est bondé. Elle a même par moments des crises de claustrophobie dans son juste corps qu'elle vient de déchirer. En montant sur une échelle au-dessus de la scène, elle interprète malgré tout la chanson que tous veulent entendre.
Le corps, c'est lui pour moi.
La vie en rose, version scintillante, signée Grace Jones, mannequin, chanteuse et comédienne.
Oui, elle reste l'inoubliable Mayday, la méchante James Bond girl dans Dangereusement Vôtre. C'était Roger Moore qui était James Bond et c'était en 1985.
La partition d'Omblin Roche, l'histoire derrière le parcours d'un artiste. Un disque, une chanson tous les matins avec vous, Omblin Roche, juste avant 6h30. À demain. Laurent Cabrol, ouais. La météo est moins scintillante que cette version de Grace Jones.
Vous savez, c'est très curieux, parce que c'est un bon choix le disque que vous avez passé à l'instant, enfin la chanson plutôt, parce que aujourd'hui, on a pu voir cette nuit la lune rose.
C'est vrai, c'est vrai.
La lune rose qui est un phénomène assez exceptionnel, qui n'arrose que de nom, parce que le nom, on l'a vu rose quand même, il y a une belle photo sur le Mexique, mais
alors,
c'est vrai que...
Alors en traversant Paris cette nuit, je ne l'ai pas tout à fait vu rose.
Non, mais c'est normal, on ne la voit pas rose partout. Enfin, c'est une lune exceptionnelle, avec des grandes marées exceptionnelles, les grandes marées de 111. Bon, fermons la parenthèse, mais c'était bien choisi la chanson. Alors, en ce qui concerne les températures aujourd'hui, les températures maximales, ce sera du 15 à 21 degrés, 21 à Paris, 15 au Havre, en passant par 17 à Toulouse, 18 à Bordeaux, 19 à Lille, 20 degrés à Belfort et 23 degrés à Strasbourg, qui sera la ville la plus chaude. Vous voyez que ce sont des températures plutôt sympathiques, surtout que ce matin, nous aurons encore des gelées, mais j'en reparlerai tout à l'heure. De la pluie, il y en aura à peu près... disons, assez bien réparti maintenant. Ça rentre un petit peu sur la moitié nord. Vous aurez de l'appui sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Massif central et le nord du Midi-Pyrénées, la vallée du Rhône. Il y en a beaucoup en ce moment. Ça, c'était déjà en cours, si je peux dire. L'Aquitaine, le Poitou-Charentes, l'Orléanais, la région parisienne et la Champagne, comme le littoral de la Manche, connaîtront ces régions un petit peu d'averse. Et sur le nord et les Ardennes, un ciel voilé. Alors que dans le Val-de-Loire, le Poitou-Charentes et le Bordelais, ce seront des éclaircies. Voilà, fermons la parenthèse.
Merci Laurent. On vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7, Théo Manval.
Mercredi 28 avril, très bon réveil, un nouveau journal. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Il est 6h30.
Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est surtout être présent dès qu'on aura le droit de rouvrir. S'il y a vraiment un moment où il ne faut pas nous tirer une balle dans le pied, c'est maintenant.
L'impatience et la fébrilité des restaurateurs, eux qui attendent le feu vert pour rouvrir et qui préparent l'installation de leurs terrasses éphémères, notamment à Paris. Dans ce journal, il sera aussi question du déconfinement côté exécutif. Emmanuel Macron en a précisé les contours hier avec plusieurs maires de France. Et puis le PSG affronte Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions ce soir. On peut espérer du spectacle. Car à Manchester, le coach Guardiola est connu pour voir le foot comme un art majeur.
Alors juste après ce journal, la campagne vaccinale en France risque-t-elle la surchauffe au vu des nombreux créneaux vacants dans certains vaccinodromes ? Les prévisions en exclusivité sur Europe 1 du patron de Doctolib, Stanislas Niox-Château. Des chiffres qui donnent plutôt espoir. Ne le manquez pas, c'est dans 10 minutes.
Europe 1, écoutez le monde changer.
En attendant le déconfinement, les restaurateurs installent à tout va des terrasses éphémères. C'est notamment le cas à Paris pour doper le chiffre d'affaires. Alors qu'une réouverture en extérieur des bars et des restaurants commence à se profiler, la mairie de Paris est en train de rendre ses arbitrages. Quelle taille, quel aspect, est-ce que ce sera payant ou non ? Mais avant même que ce cahier des charges ne soit rendu, eh bien on lance déjà les travaux, le reportage de Pierre Herbulot.
Nathan Hello ne scie pas de planches, il ne les visse pas sur des places de parking, non. Le chef du restaurant du Pain est en train de créer son futur chiffre d'affaires.
Dans l'idée, on est à 14 tables, 14 tables de 2. Ce qui nous permet en fait tout simplement de retrouver la place perdue à l'intérieur, de la retrouver sur l'extérieur.
2000 euros de travaux pour agrandir et embellir sa terrasse en palette de l'été dernier, avant même de connaître les règles décidées par la mairie.
Si on n'agit pas tout de suite, on risque de perdre du temps et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est surtout être présent dès qu'on aura le droit de rouvrir. S'il y a vraiment un moment où il ne faut pas nous tirer une balle dans le pied, c'est maintenant.
Ah mais on ne peut pas tout avoir, enfin, je veux dire, il faut que ce soit un équilibre aussi à Paris.
Olivia Polski est chargée du commerce à la ville qui définit en ce moment le cahier des charges de ses terrasses. Dimension, horaire d'ouverture et prix. La gratuité, c'est terminé.
C'est de l'entretien de l'espace public, hein. Je veux dire, les équipes de propreté, les équipes de sécurité, il y a aussi des salaires à payer. C'est un usage collectif de l'espace public.
Des terrasses payantes, c'est aussi des terrasses pérennes. Et ça inquiète Gilles Pourbet, le président de l'association Vivre Paris. Trop de nuisances sonores.
L'été dernier a été une véritable catastrophe. Attention au pétage de plomb.
Aujourd'hui éphémère, ces extensions de bars et de restaurants pourraient devenir semi-permanentes. La mairie songe à les autoriser 6 mois de l'année.
Le reportage de Pierre Herbulot.
Et ce grand retour à la vie, il en a été question lors d'une réunion entre Emmanuel Macron et un panel de maires hier soir.
Emmanuel Macron, qui a notamment abordé les conditions de ce déconfinement. Jean-Rémy Baudeau, le scénario de cette nouvelle étape se dévoile petit à petit.
Oui, un scénario par étape esquissé par Emmanuel Macron hier soir. Le principal enseignement noté par les élus, c'est la volonté affichée par le président d'alléger le couvre-feu dès que possible, 19h jusqu'à la mi-mai, puis un peu plus tard jusqu'à l'été. La mi-mai qui devrait être un rendez-vous important pour annoncer justement 3 à 4 phases progressives de déconfinement, selon un participant. La date du 12 mai est évoquée pour une série d'annonces de réouverture selon les territoires et les taux d'incidence. Emmanuel Macron qui a plaidé pour accélérer encore la vaccination, il s'est prononcé pour que les moins de 55 ans en surpoids puissent en bénéficier. Aucun calendrier, mais un conseiller confirme que c'est une piste de travail. De nouveaux éléments, mais rien d'officiel. L'Élysée use et abuse actuellement de ces petites séquences où le président distille des détails lors d'échanges informels. Emmanuel Macron pourrait-il prochainement préciser tout cela publiquement ? Une élue présente hier pense avoir compris que le président projette une prise de parole d'ici à la fin de la semaine. Là encore, aucune confirmation de l'Élysée qui laisse plutôt entendre une allocution après le week-end.
Jean-Rémy Baudeau et puis le président LR de la région Sud, ex-PACA, Renaud Muselier, a officialisé sa candidature pour la prochaine élection régionale. Et selon les informations de Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1, eh bien Emmanuel Macron aurait validé la proposition d'un accord dès le premier tour avec Renaud Muselier pour une liste commune En Marche Républicain afin de faire barrage au RN. Aurélie Herbemont vous l'a raconté dans le journal de 6h. On reviendra en détail avec Mickaël Darmon dans le journal de 8h sur cette info.
Pour l'heure, il est 6h34 et aux États-Unis c'est déjà l'heure d'un premier bilan pour Joe Biden après 100 jours à la tête du pays.
Et Joe Biden qui sera ce soir devant le Congrès pour un discours à la veille de ce symbolique 100e jour. Lutte contre le Covid, vaccination, politique internationale, le successeur de Donald Trump est sur tous les fronts depuis fin janvier. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant à New York. C'est un début de mandat auquel peu d'observateurs s'attendaient.
Oui, effectivement, car Joe Biden gouverne bien plus à gauche que prévu. Lui, l'ancien sénateur, plutôt centriste, il a proposé le mois dernier un plan de 2000 milliards de dollars pour rénover les infrastructures américaines. Et le symbole de ces 100 jours, c'est bien entendu la réussite de la campagne vaccinale. 215 millions de doses injectées, 43% de la population américaine a reçu une première protection contre le Covid. Donald Trump le surnommait Joe l'endormi pendant la campagne. Le président se révèle quasiment hyperactif. Plus de 60 décrets signés, un ton ferme avec la Russie et la Chine. Une présidence tout de même apaisée dans un style opposé à son prédécesseur, très peu de réseaux sociaux, une communication maîtrisée et cadrée par la Maison-Blanche, alors que Joe Biden s'est illustré par des gaffes au cours de sa carrière. Alors tout n'est pas rose pour autant, sur des dossiers comme l'immigration, la réforme de la police ou encore le contrôle des armes à feu, Joe Biden aura besoin de convaincre et de trouver des voix républicaines pour faire passer ses textes au Sénat. Ce sont des sujets qu'il abordera ce soir devant le Congrès, lui qui avait fait de l'unité le thème central de son discours d'investiture.
Alexis Guilleux depuis New York et puis autre visage de l'Amérique, Britney Spears, dont le destin souvent tragique prend un nouveau tournant aujourd'hui. Vous savez qu'elle est sous tutelle depuis plus de 12 ans à la suite de troubles psychologiques, eh bien elle a demandé à s'exprimer devant le tribunal de Los Angeles. Elle pourrait demander la levée de la tutelle ou, à tout le moins, un changement de tuteur. À 39 ans, Britney Spears est dépendante de son père, qui a la main sur les grandes décisions la concernant.
En France, Simon Rubin, dans les prochains jours, préparez-vous à ce qu'on pourrait appeler la guerre du muguet.
Les fleuristes sont soumis à des règles sanitaires très strictes pour vendre ces fleurs. Et ils sont vent debout contre les vendeurs de muguet à la sauvette qui échappent à tout contrôle. Maud Descamps.
Oui, au-delà des fleuristes et des grandes surfaces, on pourra aussi trouver du muguet sur le bord de la route puisque le gouvernement autorise les associations et les particuliers à le vendre dans une limite de 10 km autour de leur domicile. Mais Florent Moreau, président de la Fédération des fleuristes, ne comprend pas que la vente à la sauvette soit autorisée cette année.
Depuis un an, on impose aux entreprises des mesures drastiques de protection de la population, avec notamment des jauges à respecter, l'obligation de mettre à disposition du gel hydroalcoolique, autoriser désormais des non-professionnels à vendre du muguet sur la voie publique. Ça semble être complètement insensé. La France est encore sous confinement jusqu'au 3 mai prochain. Je ne comprends pas cette disposition.
Comme les commerces, les vendeurs à la sauvette devront respecter les gestes barrières et notamment éviter tout rassemblement de plus de 6 personnes devant leur stand. À l'inverse de l'année dernière, les fleuristes, eux, sont ouverts tout à fait normalement. Pas besoin de passer par le click and collect. Une bonne nouvelle donc pour les professionnels du secteur qui espèrent en profiter. Le 1er mai est le 4e jour de vente le plus important de l'année.
Maud Descamps.
On termine ce journal avec le grand rendez-vous de la soirée à suivre sur Europe 1, évidemment. PSG Manchester City en demi-finale allée de la Ligue des champions de football.
Et côté anglais, le plus grand danger viendra du banc. C'est l'entraîneur Pep Guardiola dont la philosophie se résume résume ainsi, mieux vaut perdre avec panache que gagner sans éclat. Cyril de la Morinerie.
Oui, depuis son départ du FC Barcelone il y a 9 ans, Pep Guardiola n'a toujours pas réussi à remporter une nouvelle Ligue des Champions. Avec le Bayern Munich, puis avec Manchester City, le célèbre technicien espagnol de 50 ans n'a pas atteint le Graal. L'an dernier, les Mancuniens avaient d'ailleurs échoué en quart de finale, éliminés par Lyon. Car cette esthète ne veut pas renier ses principes de jeu, à savoir conserver le ballon au maximum, même si cela peut être risqué. Une stratégie que Pep Guardiola compte bien utiliser de nouveau ce soir au Parc des Princes.
Je ne veux pas gagner. Je ne veux pas aller en finale. Je veux qu'on soit nous-mêmes. C'est mon souhait, mon rêve. Car la meilleure façon d'avancer, c'est d'essayer d'imposer notre jeu comme nous le faisons depuis 5 ans.
Manchester City brille grâce à son jeu, une équipe homogène et très difficile à bousculer, toute proche d'un nouveau titre en Angleterre. Invaincu cette saison en Ligue des Champions, c'est aussi la meilleure défense de la compétition avec seulement 3 buts encaissés. Le Manchester de Guardiola impressionne. Mbappé et Neymar devront être inspirés pour déjouer les plans du mythique entraîneur.
Cyril de la Morinerie est donc soirée spéciale sur Europe 1, 20h, 23h30 pour suivre ce match.
On ne le manquera pas, merci beaucoup. C'était le journal de Simon Rubin, il est 6h39.
Europe 1.
L'heure d'accueillir l'invité de ce 5-7. Bonjour Stanislas Niox-Château.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, PDG de Doctolib, société par laquelle passe une très grande partie de la réservation de rendez-vous pour la vaccination dans l'Hexagone. Alors que plus de 200 000 créneaux restent vacants dans les vaccinodromes, on l'a entendu, vous venez nous révéler vos prévisions pour les mois à venir. La campagne de vaccination s'accélère et vous êtes plutôt optimiste. On voit pourquoi dans une minute. A tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Et le PDG de Doctolib, Stanislas Niox-Château, est donc avec nous en direct ce matin. On parle beaucoup depuis hier de ces 220 000 créneaux de vaccination vacants dans toute la France. Il y a de plus en plus de places pour se faire vacciner parce qu'on a de plus en plus de doses. Et vos prévisions ce matin sont rassurantes, Stanislas Niox-Château, car on devrait atteindre, nous dites-vous, un tournant majeur d'ici 2 mois tout pile.
Exactement, donc d'ici le 29 juin, nos prévisions montrent que 50% des Français seront vaccinés avec une première dose. 20 millions de Français auront reçu cette première dose d'ici le 15 mai. Et la campagne de vaccination, elle poursuit son accélération. Aujourd'hui, on vaccine 450 000 patients par jour. C'est 2 fois plus que début mars, 4 fois plus que début février. Et vous l'avez très bien dit, il y a 230 000 rendez-vous qui sont pris sur Doctolib chaque jour. C'est pas une nouveauté, puisqu'en fait, ça fait depuis 10 jours qu'il y a ces 200 000 rendez-vous qui sont pris sur Doctolib par jour. Et donc, n'hésitez pas à aller vous faire vacciner et à prendre un rendez-vous.
La moitié des Français vaccinés avec une première dose dans 2 mois tout pile. Sur quoi vous vous basez? Comment vous les avez construites, ces prévisions?
En fait, on a construit un modèle de prévision basé sur la population vaccinée à date, les statistiques d'activité constatées sur Doctolib depuis 4 mois et les prévisions de livraison de vaccins. Vous l'avez très bien dit, le facteur limitant, c'est la livraison de vaccins. Or, on a eu des bonnes nouvelles sur les dernières semaines, donc la campagne de vaccination poursuit son accélération avec une stratégie vaccinale qui est claire. Vacciner d'abord les personnes les plus âgées. Aujourd'hui, plus de 70% des plus de 75 ans sont vaccinés, plus de 60% des plus de 60 ans. Et donc, ce sera la moitié des Français d'ici le 29 juin.
On est aujourd'hui à un cinquième, hein, plus de 14 millions de personnes vaccinées avec une première dose. Finalement, c'est comparable à l'Italie, à l'Espagne, à l'Allemagne même, qui en est à 24%. Finalement, après un début diesel, on a rattrapé la cadence, ça y est, de nos voisins.
Exactement. Il faut le dire, aujourd'hui, on est le 6e pays du G20 en termes de part de population vaccinés.
En pourcentage.
Très proche de l'Italie et l'Allemagne et avec une dynamique très positive sur les derniers jours.
C'est important ça. La France fait partie des 6 pays du monde, 7 avec Israël, les plus avancés sur la vaccination aujourd'hui.
Exactement. Et on a vacciné 3 fois plus de personnes que le reste du monde. Ce qui n'empêche que la vaccination n'est pas qu'une course nationale, c'est aussi un défi mondial. Mais il faut le rappeler, seulement 7% de la population mondiale est vaccinée première dose par rapport à 21% en France.
Alors certes, on reste loin de pays comme Israël, 62% de vaccinés au Royaume-Uni, 50%. Mais il y a une interrogation quand même. Est-ce que ces créneaux vides dont on parlait, et surtout la faible appétence des jeunes pour ce vaccin, on en a parlé en début de semaine sur Europe 1, un tiers des moins de 24 ans seulement ont l'intention de se faire vacciner. Est-ce que ces deux facteurs ne font pas craindre le risque, Stanislas Niox-Château, d'un plafond de verre à un moment donné?
Alors, absolument pas. En fait, les créneaux vides et l'information qui a été sourcée hier, en fait, n'est pas une bonne information, puisque la réalité, c'est qu'il y a 200 000 rendez-vous qui sont pris sur Doctolib chaque jour depuis 10 jours. Donc, il n'y avait pas plus de créneaux vides hier qu'il y en avait la semaine dernière. Il y a
donc, c'est un phénomène limité aux plus grands centres, des
exactement,
plus grandes
c'est
villes.
Un phénomène limité à quelques endroits dans une trentaine de centres sur les 1800 En France, il y a 200 000 rendez-vous qui sont pris chaque jour. Dynamique très positive depuis 10 jours et qui va se continuer dans les jours à venir.
Je reviens sur les jeunes. Notre spécialiste santé Anne Le Gall nous montrait en début de semaine qu'un tiers seulement des moins de 24 ans avaient l'intention de se faire vacciner, 40% des moins de 35 ans. Est-ce que ça ne peut pas faire redouter quand même un pourcentage de vaccinés qui n'augmenterait plus que très lentement une fois qu'on élargira de plus en plus la vaccination aux catégories d'âge les plus jeunes?
En tout cas, à date, on en est très loin. Nos prévisions, elles sont claires. On vaccine 450 000 personnes par jour. On va vacciner 600 000 personnes par jour d'ici 3 semaines, 750 000 d'ici un mois et demi. Il y a bien sûr un engouement très fort pour cette campagne de vaccination et on l'a tous vécu sur les 4 derniers mois avec des difficultés d'accéder à la prise de rendez-vous du fait du nombre limité de vaccins. Donc je pense qu'il y a un engouement qui reste très fort et toutes nos prévisions sont à retrouver en ligne sur le site doctolib.fr/défi-vaccination. On a essayé de donner de la lisibilité aux Français sur qu'est-ce qui se passe réellement sur cette campagne de vaccination, qui sont les acteurs.
Il faut élargir au moins de 50 ans déjà, au moins de 40 même dès aujourd'hui pour vous?
Non, pour moi, je pense pas. Il y a plus de 7 millions de Français de plus de 60 ans qui ne sont pas encore vaccinés à date, hein, plus de 7 millions.
Il faut attendre.
Et donc pour moi, il faut attendre probablement la semaine prochaine pour annoncer l'ouverture aux plus de 50 ans, puisque encore une fois, il y a 7 millions de nos aînés qui n'ont pas encore été vaccinés à date.
Et c'est pas prévu avant le 15 mai, hein, aujourd'hui, pour les moins de 50 ans. Un autre phénomène, Stanislas Niox-Château, qui pourrait ralentir cette accélération de la vaccination, c'est la défiance qui persiste autour du vaccin AstraZeneca. Vous ne deviez pas permettre au départ sur la plateforme Doctolib de savoir quel vaccin était administré dans les centres où les gens prenaient rendez-vous. Finalement, c'est le cas. C'était la moindre des choses quand même pour vous?
Ah oui, nous en fait, on a un enjeu de transparence, d'accès aux soins. C'est pour ça qu'on a créé Doctolib.
C'est Olivier Véran, hein, au départ, qui disait on ne saura pas avec quel vaccin on vient se faire
injecter. On a un enjeu de transparence et les 50 millions de nos concitoyens qui utilisent Doctolib pour leur rendez-vous quotidien, ils le savent. Donc on communique l'activité des centres, des médecins généralistes, des pharmaciens, des infirmiers, des sages-femmes qui vaccinent. Et donc aujourd'hui, vous pouvez aller sur Doctolib, choisir votre vaccin. Après, que vous ayez tous en tête, hein, aujourd'hui, 73% des doses de vaccins AstraZeneca ont été utilisés. Donc nous, on n'a pas constaté moins de rendez-vous pour la vaccination AstraZeneca sur les 10 derniers jours.
Mais vous constatez, vos chiffres le montrent, que les Français choisissent massivement la vaccination dans des centres communaux ou hospitaliers où il y a plus de Pfizer et de Moderna et moins en pharmacie.
Non, en fait, c'est assez simple. C'est que l'approvisionnement Pfizer et Moderna dans les centres est plus important que l'approvisionnement AstraZeneca.
Mais 84% des vaccinations ont lieu dans les plus grands centres, presque 9 sur 10.
Mais sincèrement, c'est lié plutôt à l'approvisionnement, puisque ces centres ont été approvisionnés depuis mi-janvier et donc ont une capacité de vacciner plus importante, puisque encore une fois, je le rappelle, le seul facteur limitant de la prise de rendez-vous, c'est la disponibilité des doses de vaccins. Aujourd'hui, la France est l'un des pays du monde les plus avancés sur la campagne de vaccination et malgré un début lent à cause de cet approvisionnement de vaccins, l'accélération est très rapide sur les deux derniers mois.
Encore un dernier mot, parce que c'est quand même, malgré tout, le cas, ça reste difficile de trouver des créneaux dans de nombreux endroits en France, notamment loin des grandes villes dont on parlait. Beaucoup de nos auditeurs sont peut-être même surpris d'entendre depuis hier ce chiffre de 200 000 créneaux disponibles. Comment est-ce que vous, Doctolib, vous pouvez encore améliorer les choses dans les campagnes, notamment?
En fait, ce chiffre, encore une fois, c'est le même depuis 10 jours. Il y a 230 000 rendez-vous pris chaque jour. Pourquoi ? Parce que chaque centre reçoit des doses de sa région toutes les semaines, tous les jours, et donc met de la disponibilité de rendez-vous tous les jours et toutes les semaines.
Mais est-ce qu'il y a matière à fluidifier encore les choses dans les centres les plus petits ?
Très sincèrement, non. Aujourd'hui, il y a 91% des doses Pfizer qui sont utilisées en France. On a le système le plus rapide d'accès à la vaccination avec une prise de rendez-vous en ligne qui représente 54% des rendez-vous. Il y a à peu près 10 jours de délai entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous réalisé.
Est-ce que ça
s'est
raccourci, justement, ou est-ce
exactement,
que ça reste...
c'est passé de 15 jours à 10 jours. Et donc, je pense que c'est très difficile de faire mieux. Aujourd'hui, il y a une mobilisation des soignants, des villes, des régions et des équipes de Doctolib. Aujourd'hui, le vrai facteur limitant, c'est l'approvisionnement de doses de vaccins.
Des doses qui arrivent massivement et ça va permettre d'accélérer encore. Je retiens donc ce que vous nous dites, Stanislas Niox-Château, fondateur de Doctolib. La moitié des Français auront reçu une première injection d'ici 2 mois. Révélation en exclusivité ce matin sur Europe 1. Et la France est le 7e pays au monde en termes de vaccination si on se compare. Il faut le dire aussi, ça fait du bien de l'entendre. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée.
Merci. Europe 1.
6h48, à suivre l'innovation du jour dans un instant. Anissa Mbida s'est installée. À tout de suite. Théo Manval.
Chantal vous informe sur Europe 1.
L'essentiel à 6h10. Couvre-feu maintenu jusqu'à mi-mai à 19h et des réouvertures progressives ensuite à partir du 12 mai. Emmanuel Macron a dévoilé devant quelques maires les contours du calendrier de déconfinement. Il devrait s'exprimer publiquement dans les prochains jours. Toujours pas de traces d'Estelle Mouzin. Après une deuxième journée de recherche dans les Ardennes, les enquêteurs guidés par Monique Olivier sont convaincus de suivre cette fois-ci une piste très sérieuse. Les fouilles continueront toute la semaine. Deux journalistes espagnols et un Irlandais exécutés au Burkina Faso. Ils étaient portés disparus depuis lundi après une attaque alors qu'ils réalisaient un documentaire sur le braconnage. Et puis le PSG défie ce soir Manchester City, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Soirée spéciale sur Europe 1 à suivre dès 20h.
Europe 1, Théo Manval.
L'innovation du jour, comme chaque matin, avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Théo.
On est nombreux à en rêver, ne plus tordre jusqu'au bout son tube de dentifrice pour aller chercher la dernière goutte. Des tubes avec un revêtement ultra glissant, Anissé, vont enfin être commercialisés.
Mais oui, comme ça on n'aura plus l'impression de se faire avoir. On pourra profiter du moindre gramme de pâte qu'il y a dans son dentifrice. D'ailleurs, c'est pas par hasard hein, que si les tubes d'aujourd'hui sont opaques, c'est pour qu'on ne puisse pas voir qu'il y en a encore à l'intérieur.
Super chérie.
Eh bien, avec ce revêtement ultra glissant, plus rien ne va adhérer, la totalité du contenu va s'écouler sans effort et on pourra avoir des tubes totalement transparents. La technologie s'appelle Leaky Glide, ça fait 9 ans qu'on l'attend depuis sa présentation par des chercheurs du MIT et là, ça y est, elle est enfin disponible et ça commence sur les tubes de dentifrice Colgate Elixir.
9 ans, il a fallu des chercheurs du MIT, pourquoi ça a mis autant de temps?
Eh bien, ça marchait déjà, mais jusqu'ici le revêtement n'était pas homologué pour le contact alimentaire, donc on s'en servait uniquement sur des colles ou de la peinture pour éviter qu'elle adhère au couvercle, et bien désormais on va pouvoir l'utiliser dans l'agroalimentaire et éviter de secouer, de taper, de s'énerver sur son tube de ketchup ou de mayonnaise.
On sent l'expérience.
Bah oui. Ça enlèvera aussi pas mal de frustration dans les cosmétiques, parce qu'il n'y a pas que les tubes de dentifrice qu'on tortille, il y a aussi les tubes de crème, le jet de douche qu'on retourne, le vernis qui reste toujours accroché aux parois, etc.
Ça veut dire qu'il faut s'attendre à de gros changements dans les emballages, Anissé.
Oui, et pas seulement pour le côté pratique, ou pour être sûr d'en avoir pour son argent. Distribuer la totalité du produit sans laisser même une micro-goutte à l'intérieur, ça permet aussi d'éviter les déchets et de faire la promotion d'emballages plus responsables, de développer le vrac par exemple.
Merci beaucoup Anissé, l'innovation du jour qui va nous permettre de faire des économies d'énergie et du durable aussi avec le vrac, le dentifrice en vrac peut-être demain, on ne sait jamais. Merci beaucoup Anissé, à demain.
La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse internationale. Caisse d'épargne, vous être utile.
6h52, ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent pour votre revue de presse internationale. Et on commence en Inde ce matin avec vous, Com Bastin. Bonjour Com.
Bonjour Théo.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous ?
On parle de la censure du gouvernement sur la situation sanitaire alors que la barre des 200 000 morts vient d'être franchie hier. Ce week-end, 52 personnalités et opposants qui critiquaient la gestion de la pandémie par Narendra Modi ont vu leur tweet supprimé au nom de la sécurité nationale, selon NDTV. Dernier épisode en date, rapporté hier par le Télégraphe, les menaces du ministre de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, pour cette figure du parti BJP. Les hôpitaux qui réclament de l'oxygène participent à créer une panique, ils feront face à des contrôles de police. Ces déclarations provoquent l'indignation alors que dans tout le pays on voit des images bouleversantes de patients qui meurent faute d'oxygène. Et l'homme n'en est pas à son coup d'essai, rappelle The Hindu. Ce week-end, il a déclaré qu'aucun hôpital ne manquait de rien en Inde et que ceux qui prétendent le contraire, doivent être poursuivis.
Merci, Com Bastin, correspondant Europe 1 en Inde. L'Espagne à la une ce matin également. Bonjour Henri de Laguérie.
Bonjour Théo.
Vous êtes à Barcelone, qu'est-ce qui fait les grands titres ?
Eh bien, des excellents résultats de ce concert test qui a réuni il y a un mois 5000 personnes au Palais des Sports de Barcelone. L'événement n'a pas accéléré la transmission du virus, titre El País. Dans les deux semaines qui ont suivi ce concert avec masque mais sans distanciation sociale, seuls 6 cas de Covid ont été détectés, poursuit le journal, soit une incidence de 130 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois moins que l'incidence relevée à Barcelone à ce moment-là. C'est un immense espoir pour le monde de la culture, estime El Periodico. Si l'on teste tous les participants avant un spectacle et s'ils portent un masque, les macro-concerts et les festivals sont une activité sûre. Ce protocole pourra être mis en place à plus grande échelle quand les autorités espagnoles donneront leur feu vert, précise la Vanguardia. Mais un test similaire aura bientôt lieu dans 5 discothèques de la Costa Brava.
Henri de Laguerre, correspondant en Espagne, ça fait rêver. On termine ce tour du monde en Grande-Bretagne avec vous Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs.
Bonjour Théo.
C'est un comeback qui occupe les journaux, racontez-nous.
Alors, dans la presse britannique, cette photo de la reine Elisabeth en robe bleue fleurie et souriante derrière un écran d'ordinateur, c'est la première image d'elle de retour au travail après la mort de son époux. Le Daily Telegraph donne quelques détails. En visioconférence depuis le château de Windsor, la reine recevait les lettres de créance des nouvelles ambassadrices de Côte d'Ivoire et de Lettonie. Le Times se réjouit. La reine tout sourire a l'air d'être en pleine forme, un contraste saisissant avec l'image d'elle au funérailles, assise seule, en habit de deuil et masquée, juge le quotidien. Pour le Daily Mail, la monarque démontre une nouvelle fois sa force de caractère. Le tabloïd Daily Express publie pour l'occasion les résultats d'un récent sondage qui indique que 64% des Britanniques souhaitent que la reine reste sur le trône jusqu'au jour de sa mort.
Anaïs Cordova, correspondante Europe 1 à Londres, votre fenêtre sur le monde avec nos correspondants. C'est tous les matins, juste avant 7h.
Europe
1. 7h-5, la météo et le journal arrive dans quelques secondes et Mathieu Béliard s'installe pour le 7-9. À tout de suite.